d'être venus nous écouter, si nombreux.
Bon, on peut le faire sans micro, hein, même. Hein.
Oui, mais bon, ouais. Pour une fois, on va faire avec micro quand même. Oui, mais où est-ce qu'ils sont?
Pour baisser les protecteurs.
Alors, ils vont arriver. Ils vont venir. Et on va commencer. Pour écrire ou pour faire de BD, il faut observer, écouter. Et je me suis aperçu que ça marchait bien pour l'écoute et pour immédiatement réinvestir dans du scénario. Par exemple, quand on a un micro et on se lance ensemble. Alors, est-ce que c'est la même chose quand on se lance dans l'écriture ou quand ils sont dans un scénario?
J'ai pas écouté la question.
Mais est-ce que tu écoutes quelque chose?
Non, j'écoute. Le problème, c'est que j'entends pas toujours. Non, je m'efforce d'écouter. Non, ça n'est pas la même chose.
Voilà. Et merci. Bon.
Bon, on est.
Et donc, allez, viens. Viens ici, on va échanger. Échange.
Et qui on attend là?
L'étiquette, on attend Pierre.
D'accord.
Oui, voilà.
Ah. On était en train de parler du choix d'expression sous forme de roman, d'expression littéraire, ou sous forme de scénario. Et toi-même, tu pratiques les deux. Est-ce que c'est un choix délibéré ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive d'une manière plus ou moins accidentelle?
Alors pour moi, scénariste, c'est tout à fait accidentel, mais je ne le regrette pas. Et le truc, c'est qu'il faut juste se dire qu'on travaille des contraintes, alors que quand on écrit du roman, on n'en a pas en fait. Et en plus, on travaille aussi avec des équipes en général. Donc, c'est un petit peu... Mais ouais, moi, tout est arrivé par accident, donc je n'ai pas vraiment choisi. C'était soit le fait de quelqu'un d'autre ou soit juste le hasard, mais bon, ça, maintenant, ça, j'en suis là.
Et quand tu parles d'écriture en équipe, est-ce que c'est le cas du scénario? Est-ce que ça peut jamais être le cas du roman? Et je pose la question aux autres aussi. Parce que parfois, il y a plusieurs noms sur une couverture de roman.
Non, moi, sur le roman, je travaille seul.
Alors,
mais toi, non?
Ça dépend des titres et des univers qu'on aborde. En roman, souvent, on est seul. C'est vrai, on peut écrire à deux. Moi, c'est mon cas. J'ai co-écrit une série de romans. Et pour ne pas avoir le problème de l'écriture à quatre mains, on se refilait la série. C'est une série en 7 tomes. On se refilait la série de tome en tome. J'écris le premier, mon co-auteur le second. On travaillait ensemble sur les pitchs, les scénarios de chaque roman. Et en fait, on se prêtait la série de tome en tome. Quand on a une écriture qui se ressemble, les gens n'ont pas été plus sensibles à un roman qu'à un autre. Et en BD... je rejoins ce que disait John, on travaille surtout, il y a des contraintes, de ces contraintes, je trouve, peuvent naître, naît l'inventivité. Et quand c'est des séries vraiment longues, où on travaille sur plusieurs tomes, parfois avec plusieurs scénaristes, on est obligé d'avoir un pot commun d'idées, de beaucoup débattre avant, de construire. Alors c'est plus facile à construire, enfin, c'est à la fois plus facile et plus difficile, mais on est obligé de construire des récits donc avec un format, c'est-à-dire qu'on a un format classique qui est de 40-50 pages. Et là-dedans, donc, on arrive à faire rentrer une histoire, un personnage ou des personnages, avec une trouver une vraie fin, et permettre, à partir de cette construction de l'univers, aux autres de travailler après nous. Et parfois, ça passe par un pitch, tout simplement, dire voilà, moi je veux développer tel type de personnage, tel type d'univers. Et ensuite, donc, quand on l'écrit vraiment, si tout a été posé comme une préquelle du projet, les autres scénaristes peuvent travailler après nous.
D'accord. Et je posais la question à Pierre Dubois. Comme toi, on manie aussi le dessin et l'écriture. Qu'est-ce qui est différent quand on va travailler avec un dessinateur?
Moi aussi, c'est venu accidentellement. C'est que le pauvre René Haussmann s'était fait encore virer de chez lui par la première femme, ce qu'il continue à faire. Enfin bon, je crois que c'est devenu une habitude.
Mais c'est plus la première.
Non, là, celle-ci, elle a compris qu'il ne fallait pas le virer, parce qu'il pouvait gagner de l'argent ailleurs. Donc là, elle le garde, c'est comment le truc de Stephen King, là, c'est le... Comment,
Misery.
Elle ne lui a pas pété les pattes, mais presque, c'est plus la peine, de toute façon. Et le pauvre René était viré, était venu chez moi vivre, parce qu'il ne savait plus où aller. j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et le rédacteur en chef de Spirou, enfin, qui venait d'arriver, Van Goren, je l'avais connu à l'époque où il était le nègre de Henri Verne. Et donc,
un des nombreux nègres.
Un des nombreux nègres de Henri Verne. Et quand il a eu Spirou, lui qui aimait beaucoup ce que faisait Haussmann, et il aimait bien ce que je faisais, il me disait, mais pourquoi tu ne lui fais pas une bande dessinée pour lui? Et René m'a dit, oh oui, j'aimerais bien mettre des femmes sauvages, qui se battraient avec des grosses cuisses. Et donc, mais comme on avait tous les deux les mêmes goûts pour le lard, pour pour les femmes aux grosses cuisses, les frites et le pot de soleil, la cornemuse, ils jouaient très bien la cornemuse, les dames pourraient vous le dire. Et je lui ai. Moi aussi, j'avais envie de raconter une histoire de fille sauvage, un peu, parce que moi j'aimais beaucoup Martin Beswick et un film où il y avait des Martin Beswick un peu sauvage, comme ça, Florinda Volcan, qui était extraordinaire, vraiment le stérile et rougir blanc, les muqueuses à l'agonie, donc on était vraiment dans un état second. Et est né Laïna. Avec Haussmann, il n'y a eu aucun problème. Parce qu'on était dans la même imagerie, on s'est raconté la même histoire, et même si, disons qu'il y avait des moments où moi j'étais pas vraiment là, lui n'était pas vraiment là, ça s'est fait tout seul. Et là, c'était formidable, j'ai connu ça aussi avec Sfar. Quand on a fait Petrus Barbiger, Sfar, il suffit de lui dire voilà, tu me fais un laboratoire à la Hammer Film. Il connaissait la Hammer Film. Mm-hmm. Et tu rajoutes ce que tu veux dans la Hammer Film. J'aime bien tel comédien, André Morel. Il allait voir qui c'était. Il avait vraiment une communion. Par contre, donc, les autres dessinateurs.
Et là, on ne va pas citer de nom.
Non, par exemple Rolin.
Qu'on ne citera pas.
Un seul exemple, donc, dans une histoire de flibustière, le Saskia des Vagues, il y a une mutinerie à bord, et elle veut mater la mutinerie, elle est toute seule, c'est la capitaine, et là, elle dit tambour. Et l'équipage doit jouer du tambour et elle va charmer tout l'équipage. Et je lui dis, tu vas, etc. Là, les tambours et tout, elle va de l'un à l'autre. Et c'était une petite vignette où il y a un joli petit tambour qui revenait de Nantes, la Ligue de la Ligue, mais sans la Ligue. Ça, après, c'était terminé. Ça ne l'intéressait pas. Donc il y avait un petit tambour qui tapait du tambour. Et on voyait une toute petite femme vaguement nue. Qui, on ne sait pas quoi, dans un coin.
Et donc, ça ne correspondait pas du tout à ta vision.
Alors voilà, c'est ça le problème. Je pense que, ou alors, on est vraiment
en accord,
on est sur une même histoire, on se partage, même, on s'inspire mutuellement,
oui.
Ou alors c'est une catastrophe. Et ce que je trouve dommage, c'est que, ça m'est arrivé de nombreuses fois, mais même dans des petits détails que le dessinateur ne comprend pas, par exemple le Changeling, une des dernières bandes dessinées que j'ai faites, où il y a un elfe, on ne sait pas que c'est un elfe, mais on le devine, nous on le sait que c'est un elfe, il va voir un de ses potes qui est lui, du côté des flics, et de Scotland Yard, et qui s'appelle Michel Eichel.
Merci.
Et ils combattent tous les deux, en fait, le mal, le dragon, etc., à leur manière. Et il dit, franchement, j'ai rendez-vous avec lui, à mon avis, avec lui, on va encore se payer une mise en scène pas possible. Et effectivement, quand ils arrivent dans le coin, Michael a des ailes. Alors évidemment, quand on s'approche, on se rend compte qu'il y a une statue d'ange derrière lui, mais c'est évident que c'est l'elfe. Et donc il y a un rapport de, comme dans les vieux westerns, entre le shérif.
L'allusion n'a pas été saisie.
Voilà, mais pas du tout. Ouais. Pas du tout, pas du tout. Donc là, on se trouve complètement trahi, quoi.
Et est-ce que ça t'arrive aussi, est-ce que ça t'arrive aussi, David, d'avoir ce genre d'expérience, ou est-ce que tu as plusieurs rapports possibles?
Moi, j'ai remarqué une chose, j'ai pas la même expérience que mes camarades en matière de bande dessinée, et j'ai pas la chance, curieusement, d'avoir été publié en France, c'est-à-dire que mes BD sont sortis en Angleterre, enfin, dans les pays anglo-saxons, parce que j'ai un éditeur anglais. Cela dit, ça ne m'a pas empêché, évidemment, de travailler à beaucoup de scénarios avec beaucoup de dessinateurs. Et je me suis aperçu qu'en fait, la première qualité d'un dessinateur, curieusement, c'est probablement de savoir lire. Je veux dire, il est absolument indispensable qu'un dessinateur sache lire. Ça peut paraître bizarre, mais pour avoir discuté de certains scénarios, et je pense savoir en écrire, en fait, j'ai commencé par l'écriture de scénarios, paradoxalement, avant d'arriver à l'écriture romanesque. Mes premiers travaux d'écriture étaient vraiment des scénarios, j'ai toujours pensé en image. Et j'ai vu que certains dessinateurs, j'ai envie de dire, ne lisez pas, mais peut-être même, je me posais la question, savent-ils seulement lire le français, ne sont-ils pas vraiment un alphabète à ce point-là? Et en revanche, il m'est arrivé d'autres expériences, c'était des expériences que je pourrais qualifier de malheureuses, mais j'ai eu des expériences comme toi, avec Haussmann, tout à fait géniales, comme avec Nicolas Fructus, ou Gavadzis, avec qui je sors un truc-là, ou avec une jeune fille, Hélène Georges, avec qui je travaille. On avait travaillé notamment à l'adaptation d'un roman policier de Randrage qui s'appelle Serena. Je travaille sur l'adaptation, je lui envoie le scénario et à un moment donné, elle me dit, tiens, je t'envoie des esquisses du passage principal. Je les reçois, je regarde le passage principal et je lui dis, mais tu me l'as déjà envoyé, ça, je l'ai déjà vu. La femme, Serena, elle me dit, mais non, je viens de t'envoyer ce truc. Je lui dis, c'est pas possible, je l'ai vu déjà, forcément, tu m'avais montré avant. Elle me dit, non, je viens de te l'envoyer. Et c'était vraiment pour dire à quel point on était en osmose totale. Là,
Est-ce que ça t'arrive aussi d'être en osmose comme ça avec un dessinateur et en fait de voir ce que tu avais pensé, ou est-ce que parfois, paradoxalement, ça peut te décevoir de voir justement ce à quoi tu avais pensé et peut-être une absence d'enrichissement du texte?
Alors moi, j'ai plusieurs univers graphiques autour de ma série. Bon, le principal, c'est Marion Poinceau, qui, elle, était déjà une fan de base de l'œuvre originale. Et avec elle, j'ai même pas besoin de lui donner des directives, en fait. Donc ça, c'est énorme. Je lui dis, tiens, il y a tel perso, elle fait sa version. Et à partir du moment où on s'est mis d'accord sur le style graphique, il y a pratiquement 10 ans, il n'y a quasiment jamais de changement, quoi. Je lui dis, tiens, lui, c'est un vieux fou qui fait des prophéties. Et elle ne me fait même plus de crayonner maintenant, en fait. On a tellement l'habitude de bosser, elle me l'envoie, il est déjà dans la planche, et nickel. On n'a quasiment jamais de modif là-dessus. J'ai travaillé avec d'autres gens. Moi, je n'ai pas ce problème, mais en même temps, je travaille sur des stéréotypes de mes fans. Donc j'aime bien que justement le dessinateur apporte son truc, sachant que j'ai un background tellement épais de toute façon qu'il va être difficile pour eux d'amener des choses complètement farfelues. Donc, puisqu'il y en a déjà assez des trucs farfelus. Donc en général, j'ai eu par exemple des versions du Nain, j'en ai eu je sais pas combien, Neil Buck, et en fait elles me conviennent toutes. Mais je pars d'un stéréotype aussi, donc avec le gros barbu. D'ailleurs, j'ai vu Olivier en dessiner l'autre jour et ça me convenait aussi, alors que ce n'était même pas fait exprès. Donc, moi, je n'ai pas du tout ce problème-là, mais bon, je travaille aussi effectivement avec Marion Poinceau qui est vraiment à fond. Elle a fait ça tout le temps, elle travaille trop d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle ne dédicace jamais avec moi. Mais je n'ai pas de souci, j'ai pas eu l'occasion d'être déçu par un dessinateur, jamais en fait.
Donc il y a l'osmose.
Oui.
Il y a l'osmose. Alors tu m'as fait peur à un moment quand tu as parlé de gros barbu en désignant Olivier. Effectivement,
j'ai
barbu.
Les cheveux de la barbe.
Mais lui, il dessine des nains aussi.
Voilà. La même question un peu. Cet accord entre le dessinateur et le scénariste, est-ce que tu le trouves toujours ou est-ce qu'il arrive que les choses se passent mal? On sait qu'il y a parfois dans le monde de la BD des dessinateurs et des scénaristes qui sont fâchés à mort et qui continuent à travailler ensemble.
Alors, souvent, ce genre de fâcherie, ça vient, à moins que les deux protagonistes de la fâcherie aient des caractères pas possibles et se disputent dès le début d'un bouquin, ce qui arrive rarement. Les disputes arrivent plutôt 10 ans après, quand il y a un énorme succès, puis de l'argent et des égos.
Oui.
On se dispute rarement avant. Pour l'instant, alors je ne sais pas si j'ai pas de succès ou pas d'égo, je ne me suis pas encore disputé avec les gens avec qui je travaille. Et je reviens sur ce que disait Pierre, c'est que la symbiose qu'on doit trouver quand on travaille sur un album de bande dessinée, elle vient jamais, enfin c'est exceptionnel et c'est magique quand c'est la dès le début, c'est-à-dire vous travaillez avec un ami, vous lui racontez une histoire, il vous dit je vois carrément ce que tu me dis, j'ai envie de le dessiner, d'aller dans ton sens, de rentrer dans ta caméra, de trouver ta musique et de la transposer en dessin, et ça c'est magique, ça arrive une fois de temps en temps. Après, quand il n'y a pas ce déclic magique dès le début, ce qui est important aussi, et alors comme moi je viens du dessin, je sais que parfois c'est dur de dessiner, c'est une activité très chronophage, très exigeante, on se reprend tout le temps, je me force à ne jamais trop décrire ou à ne pas dessiner pour les gens pour qui j'écris. Et je leur demande en fait de venir vers moi, et je n'écris même jamais avant d'avoir discuté avec eux sur exactement ce qu'ils veulent raconter et comment ils veulent le raconter. Et du coup, c'est à nous de fabriquer cette symbiose. Des fois, on la trouve très vite. On discute 2 heures, on se met d'accord et on y arrive. Parfois, je vais écrire 10 pages, le dessinateur ou la dessinatrice va dessiner 10 pages, et au bout de 10 pages, on se dit, tiens, ça y est, là, on touche notre truc, on est câblé, on est sur la même longueur d'onde. Parfois, ce moment arrive plus tard.
Et est-ce qu'on revient en arrière à ce moment-là?
Alors non, parce que le métier d'un auteur de bande dessinée, pour sortir ses albums, c'est de ne pas retoucher ce qu'il a déjà fait. Tous les dessinateurs sont perfectionnistes, la plupart, et on est souvent tenté de revenir sur ses premiers dessins, sur ses premières pages, sur ses premiers albums, il ne faut pas, c'est un piège. Sinon, les bouquins que vous travaillez déjà pendant 1 an, si vous passez 6 mois à les retoucher, ils ne sortent jamais. Et donc on ne retouche pas, mais par contre souvent, voilà, quand on arrive à toucher ce truc magique où il y a une vraie relation qui est installée, où on se parle, mais où presque on n'a plus besoin de se parler, il suffit de quelques mots pour parler d'une mise en scène, que la mise en scène soit comprise, interprétée, et voilà, quand on touche ça, bah, tout d'un coup ça devient facile, on écrit des choses faciles, le dessinateur ou la dessinatrice s'en empare, le traduit à sa façon, alors, et parfois c'est pas exactement la vision que moi je peux avoir en tête. Mais sauf erreur, c'est-à-dire que si je considère que la planche dessinée, une mise en scène, se trompe, je vais dire, tiens, là, on s'est gouré. On reprend, on revient avant, on retravaille. Mais j'essaye, tant qu'à faire, de ne jamais imposer ma vision. Parce que je trouve qu'on doit, à moins que j'ai une idée très précise de ce que je veux sur certaines scènes, je le dis, et sinon c'est un compromis. Et je trouve que de la discussion du compromis, parfois, peuvent naître des bonnes idées. Je m'arrête jamais sur ce que je veux, j'exige jamais de l'autre ce que je veux, et par contre, voilà, on trouve une espèce de voie du milieu dans laquelle on s'amuse et où moi j'écris pour les gens qui dessinent.
Et alors, cette absence de possibilité de retour en arrière, là je te demande à David, cette absence de possibilité de retour en arrière par rapport à l'écriture romanesque, où on peut revenir, où on peut reprendre les choses. Est-ce que c'est une contrainte qui apporte quelque chose, qui finalement libère du souci de revenir, ou est-ce que ça peut laisser des regrets?
Je pense que je fais partie des gens qui reprennent tout le temps leurs travaux. Je ne sais pas si c'est vraiment un plus ou pas. Enfin, j'ai tendance à faire un G. Généralement, pour moi, le premier G n'a comme vocation que de préparer le deuxième, ce qui permet d'avancer. Et en ce qui concerne les dessins, que je peux recevoir des dessinateurs avec lesquels ça a fonctionné, généralement, on se met d'accord de manière un peu tacite, c'est pas forcément formulé, mais le scénariste en gros s'occupe du scénario et un peu le mot de la fin sur le scénario, et le dessinateur s'occupe du dessin et un peu le mot de la fin, je trouve, sur le dessin. Et c'est vrai que j'essaie d'écrire toujours pour un dessinateur particulier, et généralement, certains scénarios que j'ai pu écrire, je les ai faits après avoir rencontré le dessinateur en essayant de l'écrire pour lui, en l'ayant en tête, et je n'ai pas vu dans ceux qui ont été faits, surtout que la plupart passent de toute façon par des storyboards, c'est-à-dire qu'avant d'avoir les planches finales, les dessinateurs me soumettent des storyboards, on discute de l'agencement des planches, l'agencement des cases, etc., on peut toujours discuter du choix de la focale des plans, Une fois qu'il se met à dessiner, on a que ça pourrait être une blague sympa de dire à un dessinateur qui vient de faire 46 planches, non, je trouve que tu t'es planté, à mon avis, tu devrais tout reprendre. Je n'ai pas encore testé ce genre de blague.
Ça, c'est si tu veux finir dans la scène avec des beaux pieds. Hein.
Est-ce que tu avais déjà fait ce genre de choses?
Non, quand même pas.
Mais quand tu repasses à l'écriture autonome, ou même à l'écriture et à l'illustration autonome, Comment le vis-tu? Est-ce que tu te sens plus libre? Ou au contraire, après une expérience, en particulier une expérience positive, comme avec Haussmann, est-ce que d'un seul coup, il n'y a pas un vertige à se retrouver tout seul devant l'histoire?
Non, c'est agréable. Non, c'est agréable. C'est vrai que j'ai eu de bonnes expériences, en sorte, puis Haussmann, mais d'autres aussi. Là, je suis en train de faire un western avec Dimitri Armand. J'ai un amour énorme pour le vieux western. Son père, donc, lui, l'emmenait voir aussi des vieux westerns, Howard Hawks et de tout là, avant que le western spaghetti n'arrive et foute tout en l'air. Donc, avec des vraiment un code chevaleresque et tout. Et il prend un pied énorme. Et c'est un plaisir, hein, tu vois, de le voir dessiner avec tous les clins d'œil que j'y mets. Et que son père comprend, donc il va puiser aussi dans la mémoire de son père avec Anthony Mann, etc., tous les petits clichés, etc. Et ça, c'est un vrai plaisir, tu vois, de voir. Il m'a envoyé ses dernières planches, t'es content, tu vois. Mais c'est vrai que brusquement, te retrouver dans ton laboratoire, dans ton boudoir, avec ton tricot, c'est aussi bien parce que tu te remets à exister pour toi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire, tu te racontes, tu sais ce que tu veux raconter. Alors évidemment, quand tu as quelqu'un qui prolonge, il y a des trucs que tu n'as pas pensé, tu vois, qui va se mettre brusquement à dire, mais Dan, c'est bien ce que tu as mis là, j'ai travaillé à un moment donné avec Jérôme le Reculé, j'avais une petite séquence qui se passe avec un dragon, lui adorait dessiner les dragons. Du coup, cette petite séquence, il m'en a fait toute une saga de 4 pages. Donc, du coup, à la fin, d'ailleurs, on a été à la bourre, mais tu me diras, tout ça vaut pas la bourre, donc du coup, il n'y a pas grave. Mais malgré tout, si tu t'es fait. Et là, quand tu reviens à écrire pour toi, pour moi c'est un plaisir parce que tu as l'impression de retrouver ton après une journée de travail, hein, un truc comme ça, où tu te remets dans ton coin et puis tu reprends tes points, un point à l'envers, un point à l'endroit, etc., et puis tu te fais plaisir, quoi, tu vois.
Alors David, est-ce que tu te fais plaisir aussi?
Alors justement, une petite remarque, c'est que le travail de scénariste est aussi très différent avec le travail de romancier, par exemple. C'est que le scénario est un état très transitoire, il y a quelque chose de relativement ingrat. Je veux dire, ça a vocation à être transcendé par le dessinateur qui, lui, de certaine façon, fait le travail final. En revanche, quand on fait le roman, je peux espérer que ce que j'ai sous les yeux sera quand même à peu près la même chose que ce que le lecteur ensuite aura sous les yeux. Je sais que le scénario n'a pas vocation à être montré. Il y a une chose qui me frappe énormément, on me l'avait dit avant, je l'avais entendu, je l'avais lu, etc., mais je ne l'avais pas vérifié. Là, je le vérifie, mais tant que je fais le scénario pour dessiner, c'est à quel point même des gens, et c'est vrai, hein, ça m'est arrivé, je ne pouvais pas savoir, je dirais 4 ou 5 fois en 2 ans, à quel point même des gens qui pourtant connaissent un peu l'écriture et lisent des livres vont demander « mais tu es scénariste de bande dessinée ?» C'est-à-dire, c'est toi qui écris les mots dans les bulles.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire lettreur. Ah, ouais. Lettreur. Et alors, John, toi qui écris des romans, scénarise des bandes dessinées dans le même univers, est-ce que quand tu écris un roman, tu imagines ce que ça pourrait donner en BD, ou est-ce que ce sont deux choses complètement accidentelles, comme tu me disais, et indépendante l'une de l'autre?
Alors ça, c'est
est-ce que tu es libre quand tu écris?
Ouais, alors moi je suis totalement libre, mais en fait j'essaye de ne pas me poser les contraintes qu'on a en BD. Alors c'est un gros problème pour justement ma dessinatrice, ouais. Parce que j'essaye de ne pas penser à elle en fait. Le truc c'est que tu as suffisamment de contraintes dans tous ces boulots, hein. Là on parlait des contraintes de la BD, mais moi j'ai aussi travaillé pour ma série télé. Et les contraintes sont multipliées par 40. Par exemple, dans un épisode de série, c'est 7 minutes. Point barre. Donc, tes dialogues, il y a des moments, tu écris un dialogue, ah ben non, celui-là, il y a trois mots en trop. Tu es au mot près, en fait, tu vois. Alors que la BD, bon, tu peux rentrer une bulle de plus dans une case, bon, tu mets un peu moins de dessin, des trucs comme ça. Mais sur le roman, moi, vraiment, je me lâche, quoi. D'ailleurs, c'est un peu la crise de nerfs pour les gens qui font ma série animée, puisque eux, ils ont des contraintes énormes. Et quand je leur dis, ouais, bah là, j'ai une armée qui arrive en fait avec une autre armée puis une créature géante au milieu, là, ils font. Et je fais, ouais, non, mais vous inquiétez pas, c'est dans la saison 4. Et, alors qu'eux, ils viennent d'en faire deux, là, déjà, ils sont complètement démoralisés par le boulot que ça leur a donné, alors que c'était très simple. Mais je pense que si au niveau du roman, on commence déjà à se mettre des contraintes pour les adaptations, je pense qu'on perd quelque chose au niveau de l'écriture, parce que le roman, c'est vraiment la seule liberté réelle que tu as. Tu peux décrire absolument n'importe quoi, à condition de trouver les mots, de faire des phrases. Des fois, alors là, je parle pas pour Naël Buck, mais dans mon bouquin d'avant, Le Bouclier Obscur, je devais écrire des scènes qui n'étaient pas comprises par le héros qui, en écrivant à la première personne, mais que les lecteurs devaient comprendre. Et des fois, j'ai mis une semaine à faire une phrase.
C'est une contrainte.
Je m'en fous. Voilà. Non, mais là, le truc, c'est la liberté totale. Tu avais un truc super bizarre et incompréhensible pour la personne qui vivait la scène et tu devais le faire comprendre au lecteur. Ça, c'est des trucs, sur le roman, tu peux, avec des techniques d'écriture, tu peux faire absolument ce que tu veux. Il faut prendre son temps, il faut faire son boulot, tu y reviens autant de fois qu'il faut. En plus, tu peux, parce qu'évidemment, là, je pense qu'à table, on en a deux qui savent dessiner et deux pas. Tu sais dessiner
très mal.
Très mal, ouais. Bon, ils savent que effectivement, quand tu fais un dessin, ta planche, pour faire une planche où un mec dit trois mots, enfin pas une planche mais une case, bah, tu passes plein de temps. Bon, c'est vrai que sur le texte, tu te fais une grande phrase machin, elle est pas bonne, bah, tu jartes tout, tu recommences. Mais si je pense que si tu commences à te mettre des contraintes au niveau du roman, après tu rentres dans une mécanique de contraintes et puis tu finis par plus vraiment écrire ce que tu veux. Donc moi je veux pas faire ça. Je préfère qu'on se prenne la tête après, mais moi je veux pas me prendre la tête pour le roman. J'ai plein d'idées, je les balance dedans, je me débrouille pour les mettre en forme, et après on voit, en fait.
C'est ton espace de liberté. Et toi, Olivier, est-ce que ton espace de liberté, c'est en passant d'un mode d'écriture à l'autre, ou en passant d'un univers à l'autre, parce que tu vis et tu fais vivre les lecteurs dans des univers très différents?
Je rejoins ce que dit John sur le roman, qui est vraiment un espace énorme de liberté, de créativité, et la seule limite du roman, quelque part, c'est l'imagination de l'auteur. Et il n'y a pas de contraintes techniques. N'importe quel éditeur peut publier des romans de 200 pages ou de 800 pages. Donc tout ce qu'on a envie de raconter, on peut le faire. Et après, moi, en tant qu'auteur, une autre forme de liberté, c'est d'être capable de rebondir d'un projet à l'autre, d'un univers à l'autre. Et je ne suis jamais aussi bon que quand je suis passionné par un sujet ou un univers. Et ça, c'est mon côté gamin. Donc, quand j'étais môme, j'adorais les films d'horreur, les films de zombies, les histoires fantastiques, les bandes dessinées américaines. Et aujourd'hui, quelque part, je me dis, je finis mon adolescence où j'écris et je raconte les histoires qui m'ont fait rêver quand moi j'étais môme. Et quand j'étais petit, je me disais, quand je serai grand, alors je ferai un truc de super-héros, je ferai un truc avec des vampires, je ferai un truc sur la mythologie celtique, j'adorais les zombies, j'ai vu des films de zombies trop jeunes qui m'ont traumatisé, et je me suis dit, quand je serai grand, je raconterai mon histoire de zombie un jour et tout ça. Et aujourd'hui, je fais tout ça, et j'en parle de temps en temps, où on me dit, mais comment tu t'y prends pour justement aborder tellement de choses différentes, arriver, je sais pas si c'est des compliments ou quoi, mais on me dit, à chaque fois, j'arrive à structurer un univers, à le rendre perméable aux autres univers sur lesquels je travaille, et en fait, ça tient à ma technique de travail, je déteste m'ennuyer. Et si je dois écrire une histoire de zombie très moderne, avec donc une musique, une oralité très moderne, on n'écrit pas une histoire de zombie comme on raconterait un conte médiéval, Donc ça passe par des films que je vais voir, des jeux vidéo, même si j'ai pas le temps de jouer, j'adore les jeux vidéo et tout ça.
Est-ce que la vraie question, c'est pas comment fais-tu pour faire tout ça, d'être dans ces univers différents, mais est-ce que tu pourrais n'être contraint qu'à un seul univers?
Non, et non, c'est impossible. Pour le coup, ce serait une restriction trop grande. J'ai envie d'aller dans plein d'univers différents. Et là où je prends du plaisir, en tant que scénariste de bande dessinée ou en tant que romancier, c'est de me dire, j'ai un mois devant moi, je vais écrire sur mes zombies. Donc je vais travailler sur un script de BD de zombies. Et quand au bout de quelques semaines, parfois de travail, je me dis, tiens, ça commence à être difficile, mes idées sont moins bonnes, mes dialogues sont moins bien écrits, je mets de côté, je mets entre parenthèses ce que j'estime moins bon, je garde tout ce que j'estime bon, et à partir de ce matériel que je juge moins bon, je le mets en commun avec le dessinateur et je dis, tiens, on travaille sur cette partie. Et pendant qu'on travaille sur cette partie, où là ça devient plus relax pour moi, puisque du coup j'ai envoyé mon texte, je peux passer à un autre univers. Et là je vais passer dans l'écriture romanesque, pour le coup, voilà, plus me raser pendant des semaines, me prendre pour un vieux barbu, un vieux moine barbu au Moyen-Âge, et être dans un autre trip. Et quand j'arrive au bout de ce trip, ça peut durer quelques semaines, quelques mois, je sens que je suis à nouveau moins bon, que c'est plus dur, que les journées sont plus longues et tout ça, j'arrête. J'enlève là où j'ai commencé à décliner, je garde la masse de travail que j'estime bonne. Et ça me permet en fait sur plein de choses différentes, écrire, dessiner, de jamais m'embêter. C'est-à-dire que j'ai jamais de routine, je rebondis d'une chose à l'autre, j'écoute des musiques différentes, je regarde des films différents, je vais dans des endroits différents et je cherche physiquement un trip qui va m'aider à rentrer ou à extérioriser le trip que j'ai dans la tête. D'accord. Et en fait, je vis des époques...
Sachant qu'en fait, tout cela continue...
ça mouline tout le temps, mais c'est des petits épisodes de schizophrénie, presque.
Et alors, question subsidiaire en ce moment, t'es dans quel trip?
Alors là, j'ai fini avant-hier mon prochain roman. Donc là, j'ai été médiéval à fond, donc voilà. J'ai fait l'effort de m'habiller aujourd'hui, parce qu'il y a du public, mais...
Très bien. Et toi, Pierre? Ce changement, cette capacité à passer d'une forme à l'autre, est-ce que c'est quelque chose qui t'est précieux ou est-ce que tu as besoin d'aller jusqu'au bout,
jusqu'à un achèvement?
Merci. Non, je crois que c'est un enrichissement à chaque fois de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que quand tu es une histoire, quelquefois tu vois des images, tu as envie de le raconter plus en images, parce que je crois qu'en ce moment, je fais un bouquin pour Glénat sur les revenants, une encyclopédie des revenants. Ça me permet, c'est faussement l'encyclopédie, c'est donc un voyage dans les revenants, ce qui me permet, c'est tellement vaste les revenants, d'aller dans les spectres de Sheridan de Fanu. Mais aussi parler de Moonfleet, tu vois, donc c'est des images qui viennent, c'est Moonfleet, c'est Stewart Ranger, le film de Fritz Lang, etc. Donc là tu te fais plaisir en racontant ça, mais tu te dis ça demande des images, je ferais bien une bande dessinée là-dessus, tu vois, parce que c'est excitant. Mais en même temps, comme je peux raconter, en tant que conteur, quand t'es conteur, tu peux aussi par la parole passer à la limite la dimension des images, essayer de il y a la mer, et puis là il y a la flûte qui coule, et puis il y a deux maripoules à côté, et on ouvre le vent et tout. C'est bien de créer des images. Que le dessin, bon mais ça y est, t'as l'image, la Jamaïcaïne, une fois pour toutes, sur le mur, mais si t'as un dessinateur très talentueux, il va te le faire. Tu vois, donc moi je peux pas. J'ai d'abord une histoire. Donc quand j'ai cette histoire-là, il y a les trois possibilités qui viennent. Ou alors je me fais plaisir, je me la raconte, et je le raconte comme ça par un roman, ou par une courte nouvelle, ou je la raconte, ou je demande à un dessinateur d'y mettre des images. Tu vois. Et là, tu regardes le film d'Hitchcock. Jamaïcaïque, tu regardes le film de Michael Powell, la renarde, et puis tu t'imprègnes. Alors, il y a des dessinateurs où c'est magique, où ils servent de magicien, tu proposes
et avec quelques recettes, et eux, ils te connaissent, ils te font une alchimie pas possible, et ils vont jusqu'au bout, et t'es ravi, t'es content, tu vois, c'est... et puis, mais c'est vrai que quand t'es tout seul et tu te le racontes, c'est tellement... alors tu fais des clins d'œil au lecteur, que il est simple, il ne sent pas, tu vois, bon, moi j'aime beaucoup de Massardi, dans une histoire, il y a un mec au pub, il y a un militaire avec son bouquet de fleurs à côté, et puis il regarde tout le temps l'heure, le fait que sa fiancée l'a dans une côté, c'est Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Qui veut le voir ou pas, c'est pas grave, mais tu te fais plaisir. Et tu fais plaisir à certains qui vont le ressentir. C'est pour ça que pour moi, le roman ou la nouvelle, c'est l'idéal. Mais raconter, c'est bien aussi. Mais quand t'as quelqu'un qui te met en image, c'est vraiment bien aussi, tu vois. Ou alors tu connais tellement bien le dessinateur que tu te dis, je vais te faire plaisir, tiens. Je vais te faire une séquence où tu peux te lâcher. Tu vois, par exemple, après j'arrête, Dimitri Armand, lui, est dans le fantastique, je vais faire un western. Donc il y a tout le goût du western, tu vois, du western. Mais en même temps, il fait tellement bien le gothique qu'il y a une scène où les mecs arrivent en pleine prairie et il y a un baron du bétail qui s'est fait une espèce de maison huchère, tu vois, et ils vont rentrer là-dedans et tous sont morts, et tous les gens sont morts et étaient tués. Et là, je lui laisse la possibilité de faire du Corman, tu vois, avec Vincent Price qui tu vois, ce problème, tu vois, c'est ça aussi.
En fait, la question qui se pose là, c'est est-ce que le dessinateur est un co-créateur ou est-ce que c'est un interprète?
Ah bah, j'ai envie de dire les deux, mais de toute façon, tout interprète est par définition aussi un classeur. Je voudrais revenir sur une chose, une anecdote marrante. Là, j'ai une bande dessinée qui sort donc dans 10 jours et je l'avais écrite. Je ne peux pas écrire sans avoir une proposition de style visuel à l'esprit. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la bonne, mais ça veut dire que j'ai besoin d'écrire quand j'écris un scénario de bande dessinée avec une proposition de dessin. Après, ça peut évoluer, évidemment. Mais il se trouve que quand j'ai envoyé mon scénario, là, qui a été lu par le dessinateur qui l'a fait finalement, j'avais en tête Baudouin. J'aime beaucoup Baudouin et j'avais en tête Baudouin. Et le dessinateur, bah, c'est pas Baudouin, c'est Nigabadzis qui est anglais, qui a fait l'EIKA, etc. Et on discute énormément. Du coup, c'est la personne avec laquelle probablement j'ai le plus correspondu par email. Aujourd'hui, je considère que c'est comme un grand frère pour moi. Et donc j'ai appris à le connaître et il me dit, mais finalement, tu sais, moi, il me dit, mon dessinateur préféré, c'est Baudouin. Et c'est un pur hasard, je ne le connaissais pas avant. Mais c'est vrai que j'avais Baudouin en tête. Et le pire, c'est que son dessin ne ressemble pas forcément à celui de Baudouin, plutôt à celui de Bullesner. Sinon, je voudrais revenir sur l'idée de liberté et autres. Alors, pour diverses raisons, moi, je ne me sens pas forcément très très libre avec l'écriture romanesque. En revanche, vraiment, j'avais l'impression avec l'écriture scénaristique d'avoir des ailes et de voler. Et je dois dire que je trouve que l'écriture scénaristique de bande dessinée est probablement l'un des langages les plus riches qui soient au monde. Quelques exemples. Je trouve que, par exemple, dans un roman, on est soumis à la durée. C'est-à-dire que la première phrase d'un livre vient avant la deuxième, qui vient avant la troisième, etc. Quand on fait une description, on doit lire plusieurs phrases. Je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien, c'est comme ça. Une bande dessinée, on l'ouvre, les planches nous imprègnent, diffusent une atmosphère avant même qu'on ait vu la première case. Et ce que je trouvais extraordinaire en termes de richesse d'écriture, c'est la possibilité pour l'auteur de jouer avec à la fois ce que le dessin va dire, ce que les dialogues vont dire, et ce que les didascalies vont dire. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à jouer justement comme ça entre les décalages entre les didascalies, c'est-à-dire ce qui a marqué en haut les pages, hein, vous savez, ça fait que c'est la voix du narrateur, et les commentaires d'un personnage qui peuvent jouer avec le narrateur. J'ai trouvé cette richesse-là, en ce qui me concerne, je ne l'ai pas trouvée dans le roman.
Merci. Alors, il nous reste quelques minutes. C'est le moment de passer la parole à la salle qui a très certainement des questions à poser. J'en vois qui se marre.
Tenez, micro.
Bonjour et merci encore pour cette très sympathique conférence. Alors, quand vous parlez de la différence entre l'écriture romanesque et l'écriture scénaristique de BD, moi il y a un truc qui ne peut me venir qu'à l'esprit, c'est aussi que se passe-t-il au moment, quand, avec l'écriture de série ou de l'écriture cinématographique. Quand on doit soit écrire un scénario original ou une adaptation de son propre œuvre, ou cas exceptionnel, l'adaptation de l'œuvre d'un autre, enfin.
Alors on va poser la question à John.
Ouais, alors bon, moi j'ai travaillé là-dessus. En fait, quand tu regardes le cinéma, principalement le cinéma américain, parce que c'est malheureusement ce qu'on a le plus, mais tu te rends compte du fait que les scénaristes du cinéma et les écrivains, c'est pas les mêmes gens. C'est clair, parce que au cinéma, il y a plein de trucs qui n'intéressent pas les scénaristes. Notamment être fidèle aux lois physiques, tout simplement, des trucs comme ça. Et ça, en fait, tu te rends compte que quand tu t'y intéresses, ça freine le travail. Et il faut se mettre vachement en retrait de ça, ce qui ne veut pas dire de ne pas travailler sérieusement, hein, mais c'est très difficile parce que tu te retrouves, même si c'est toi qui as écrit l'œuvre, tu te retrouves en qualité d'adaptateur de ta propre œuvre. Il faut prendre énormément de recul par rapport à cette foule de contraintes, parce que là on parlait que des contraintes de la BD, mais sur du cinéma, mais les contraintes, mais c'est des trucs de malade quoi. T'as la contrainte de budget, la contrainte de durée, la contrainte de public, parce que tu peux pas, par exemple, des fois tu vas vouloir mettre un mot dans une phrase, alors bon, c'est pas le cas pour moi, parce que dans notre série on a été très très libre, mais dans le cinéma, tu vas mettre un mot dans une phrase à un moment. Et les mecs sont obligés de changer le texte d'audience pour tout le film, en fait. Des trucs comme ça, et c'est complètement hallucinant. Et tu vas vouloir mettre une scène, t'as une scène très importante de ce que t'as écrit qui va se passer à un endroit, et les mecs disent « Ah ouais, mais non, on peut pas le filmer là. » Bon, bah, qu'est-ce que t'en fais de ta scène ? Voilà, que des trucs comme ça, en fait. Et quand tu dois adapter ce que t'as écrit, alors là, c'est infernal, parce que vraiment, tu as l'impression de ramer, en fait.
Merci. David, tu veux ajouter un mot ?
Oui, enfin...
Avant une dernière question.
Ça, en fait, il faudrait peut-être distinguer adaptation en animation ou adaptation en film. Il faut savoir que, de toute façon, les adaptations cinématographiques sont aussi soumises aux lois de la télé. C'est-à-dire qu'on est censé pouvoir produire des œuvres, a priori, qui sont susceptibles d'être diffusées à 20h45 pour tout public. Donc déjà, ça a tendance, ne serait-ce que dans l'adaptation, à modifier un peu le langage ou certaines scènes. Et ensuite, pour ce qui est du film live, tout a un coût. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre que la moindre scène écrite a un coût. Si on met dans un livre, moi je peux mettre 10 000 chevaliers, c'est gratuit, ça ne me coûte pas plus cher que d'en mettre zéro. 10 000 chevaliers dans un film, même si aujourd'hui le numérique, les effets spéciaux, ça coûte quand même beaucoup d'argent, on ne demande pas de faire attention.
Merci. Une dernière question ?
Parce que c'est que ça c'est assez amusant, parce que donc j'ai travaillé pendant des années aussi à France 3, Bretagne, et ils m'avaient demandé donc de faire des films fantastiques ou de féerie. Et c'est vrai que toi tu imagines faire une bataille et pour finir t'as trois ils ont été recherchés ils allaient même jusqu'aux hospices quoi, tu vois, pour chercher des gens qui n'avaient rien à faire, on leur mettait des couettes un peu sur la tête et c'est tellement l'histoire que t'as imaginé est tellement réduite à peu de choses. Alors si t'as un réalisateur un peu doué, il comprend qu'on va imaginer, il y a des ombres au loin et qui fait le truc, et on va surtout jouer sur le côté présent quoi, du duel à deux, et puis derrière on mettra des bruits de bataille. Mais c'est vrai que c'est pour ça que quand quand on voit souvent, tu sais, quand tu lis les dictionnaires de cinéma, tu vois Hal Welch qui avait tel et tel film, et quand tu vois ce qu'il a dû faire, alors qu'il avait pensé faire tel film, tel truc. Alors on parle de la liberté et d'un cinéaste extraordinaire. Et en fait, quand tu lis vraiment le comment s'est fait le film, tu te dis, merde, il a fait cette scène-là parce qu'il n'a pas pu faire l'autre, parce qu'il pleuvait, parce que oui, Peking pas avec quoi de faire, tu vois, c'est incroyable, quoi, tu te dis, mais ils arrivent quand même à faire quelque chose, c'est ça qui est étonnant, quoi, de réussir.
Il en ressort quelque chose,
il en ressort quelque chose quand
pour
même.
Pour le spectateur, c'est une œuvre avec intention, etc.
Non, en fait, je suis tout à fait d'accord, mais je crois même que quand on écrit pour le cinéma, tous les projets, audiovisuel, tu dois écrire pour l'audiovisuel. C'est-à-dire, c'est très difficile de dire, tiens, j'ai écrit un roman fantasy avec des chevaliers, des châteaux, tout ce que tu veux, et des monstres. Moi, j'ai plusieurs bouquins qui ont été optionnés par le cinéma. Et quand ça, c'est facile, ça leur coûte pas cher. Par contre, quand tu m'en réunis en prod, quand les mecs commencent à détailler, ils font ah, mais alors là, t'as des châteaux, t'as une armée, t'as des chevaux. Est-ce qu'on peut refaire la même histoire en huis clos dans un genre dans une abbaye, voilà. Et tu nous la racontes façon polar. Alors tu dis ouais, mais à ce moment-là, j'ai écrit autre chose. Et souvent, c'est ça. Tu dois écrire une histoire pour le cinéma.
Et on est d'ailleurs en train de faire une autre table ronde sur l'adaptation cinématographique. Je pense que
je pense qu'on a
une contrainte ici. C'est comme la télé ou comme les albums en 44 planches. C'est le temps. Donc je vous remercie beaucoup tous les quatre d'avoir de vous être prêtés à ce jeu, d'avoir répondu. J'espère que on a répondu aux questions non posées peut-être par les spectateurs, mais j'étais là pour en poser. Et puis je vous remercie à vous d'être venu écouter notre tableau.
Merci.
Mesdames et messieurs, attention, s'il vous plaît.